de la parole de Dieu se fera dans le livre des Deutéronomes, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, versets 19, versets 19 et 20. Deutéronome 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen. Je laisse à présent la place à notre frère Philippe Zogonès, qui nous vient de Saint-Denis, qui nous rompra ce matin le pain de vie.
Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un réel plaisir pour moi de me présenter devant vous en ce sabbat matin dans le cadre de ce culte d'adoration. Je demande à Dieu en cet instant qu'il ouvre notre esprit et qu'il prédispose nos cœurs à recevoir la semence spirituelle dont notre âme a tant besoin. Nous vivons dans un monde de tourbillon où les problèmes s'accumulent de plus en plus, où les réponses à ces problèmes deviennent de plus en plus rares, où nous constatons l'inefficacité, pour ne pas dire l'incompétence et l'incapacité de ceux qui dirigent et qui doivent trouver des problèmes dans ce monde. Problèmes de toutes sortes et dans tout domaine. Problèmes dans le domaine de la morale, de l'éthique. Problèmes dans le domaine écologique et environnemental. Problèmes dans le domaine social. Et j'en passe et des meilleurs. Et nous qui sommes dans ce monde en tant que chrétiens et croyants, nous sommes aussi confrontés à ces problèmes-là qui peuvent parfois nous surpasser et nous détourner de la vision de Jésus qui nous tend ses bras et qui revient bientôt. Et il est essentiel pour le peuple de Dieu de garder dans son esprit cette espérance. Car c'est en espérance que nous sommes appelés à supporter les afflictions. Et c'est parce que nous croyons en un monde meilleur qui ne sera pas celui-là dans lequel nous sommes, mais un monde de Dieu, où Dieu appelle tous les hommes à être participants à ce monde-là. Et l'appel de Dieu à ce monde pour tous les hommes, c'est la bonne nouvelle que nous avons, chers frères et sœurs, nous avons tant de bonnes, de mauvaises nouvelles que nous entendons, que nous voyons. Et l'évangile qui est Christ, qui est une personne, avant même d'être un ensemble de doctrines et d'enseignements, l'évangile est une personne, Christ. Alors c'est une bonne nouvelle qui peut nous donner du baume à l'esprit et au cœur, et nous fortifier physiquement pour continuer cette route sur cette terre. La bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée au monde entier. Je n'ai pas ce matin, chers frères et sœurs, vous inciter, vous mettre cette pression de l'évangélisation sur vous. Nous savons tous qu'en devenant enfants de Dieu, nous ne devenons pas la même ses ambassadeurs. Mais j'aimerais pendant quelques instants que nous attirons notre attention en quoi consiste cette bonne nouvelle. Le message biblique dans le premier livre de la Genèse et au centre les évangiles et à la fin de ce livre l'apothéose, l'eschatologie montre dans Genèse que ce Dieu en qui nous croyons est un Dieu créateur. Et parce qu'il est amour, il est créateur. Son amour pour Dieu pousse l'homme à entrer, à créer. Dans le domaine de l'environnement dans le domaine animal, dans le domaine humain. Et son amour le pousse à entrer dans une relation avec les êtres créés à son image et à sa ressemblance que sont l'homme et la femme. Et le récit de la Genèse montre que Dieu a créé l'homme dans un environnement parfait. Et dans son être parfait, corps, âme et esprit. Mais celui qui nous a précédé dans le mal, qui a précédé l'homme dans le mal, va détourner l'homme de ce qu'il doit être, de ce qu'il est, de ce qu'il devait être. Un événement majeur s'est produit dans ce monde parfait, où le mal, personnifié par le diable, va faire en sorte de détourner l'homme de ce qu'il est, de ce qu'il doit être. Donc nous voyons en lisant la Genèse l'apparition d'une puissance qui est le péché. Et ainsi l'homme passe de la perfection à la souillure. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu est pervertie en l'homme. Le péché n'est pas seulement un acte de désobéissance extérieure à l'homme, mais en péchant, l'homme introduit en lui une puissance qui est le péché. Et par là même, il devient esclave de cette puissance qu'il est en lui. Et le péché, aujourd'hui, nous pouvons le constater, génère de lourdes et graves conséquences. Mais Dieu n'est pas dépourvu au problème du péché. Ce n'est pas un problème insoluble pour lui. Quand bien même la puissance qui est le péché est un élément qui est extérieur à lui, contraire à lui et opposé à lui, mais même ce qui est contraire, opposé et extérieur à Dieu ne peut le déterminer et le conditionner. D'où le plan de la rédemption que nous lisons et que la Bible nous fait découvrir, de l'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde, mais avant que cet agneau soit personnifié en la personne du Christ, et juste après le péché, Dieu a devant lui les trois protagonistes de cette affaire, l'homme, la femme et le serpent, c'est-à-dire le diable. Et nous sommes en Genèse 3 et au verset 15, où Dieu va clairement, devant le problème de péché, va mettre en évidence devant l'homme et la femme surtout, que maintenant, à partir du péché, se trouve devant l'homme une voie dans laquelle il était et une autre voie dans laquelle il est maintenant. Voie divine, voie satanique, postérité de la femme, postérité du serpent. Nous sommes en Genèse 3. Chapitre 3 et au verset 15. C'est l'Éternel qui parle et s'adressant au serpent qui est l'auteur justement de ce problème. Je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme dont tu as séduite, entre ta postérité, la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et voilà ce que fera la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Mais la postérité du serpent lui blessera le talon. Oui, la victoire maintenant déjà est annoncée et programmée. Dieu place maintenant le camp des vainqueurs et le camp des vaincus. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et vous savez, quand on a un serpent, écraser sa tête, c'est annihiler sa puissance. Mais comme dans tout combat, il y a des dommages qu'on appelle collatéraux. En écrasant la tête du serpent, le serpent blesse le talon. Cela signifie que si la mort de Jésus est l'écrasement de la tête du serpent, mais il est une blessure pour ceux qui l'ont crucifié et pour ceux qui ont voulu le faire crucifier, la mort de Jésus pour les Romains, pour les chefs religieux de l'époque, et peut-être pour tous les peuples, est une défaite de Christ. Mais pour nous, croyants, la mort de Jésus n'est pas la défaite de Christ, c'est la victoire de Christ et notre victoire assurée en Jésus. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le serpent. En acceptant Jésus dans nos vies, et en le recevant dans notre être tout entier, nous sortons d'une voie de la postérité du serpent, ce que le péché a engendré. Le péché, quand l'homme pêche, il se place de la voix de Dieu dans la voix du serpent, de la voix du mal et dans la voix de la voix du bien, dans la voix du mal. De la puissance de Dieu, la lumière, à la puissance des ténèbres. Maintenant, Dieu, quand il dit « Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent », il est en train de tracer devant Adam et Ève deux voies. Une dans laquelle ils sont à cause du péché, une dans laquelle ils sont appelés. En venant au monde, tout homme est placé dans la voie de droite. C'est pour ça qu'il n'est pas essentiel d'apprendre à un enfant à l'éduquer de faire à faire le mal, puisque cela est en lui comme puissance, mais il faut l'instruire, l'éduquer à faire le bien. Et vous découvrez les caractéristiques de ces deux voies. Et Dieu dit bien, je mettrai inimitié. Autrement dit, entre les deux voies, inimitié signifie qu'il met séparation, qu'il met opposition. Et qu'il n'y a pas de compromis dans ces deux voies. Il n'y a pas de mélange de genre. Il y a une ou l'autre. Il n'y a pas une et l'autre. Parce que Dieu, il est dans la voie de droite, de gauche pour vous. Et lorsque nous acceptons Dieu en le recevant, nous passons de la voie de Satan, de la postérité du serpent, à la voie divine et à la postérité de la femme. En nous, maintenant, existent les caractéristiques de celui qui est appelé. Absolu dans sa sainteté, de celui qui est suprême dans son amour, de celui qui est sainteté parfaite, de celui qui est vérité par essence, de celui qui est lumière par nature. Et en recevant Jésus et en recevant Dieu, il imprègne en nous ce qu'il est, de sorte que nous passons de la mort à la vie. De sorte, nous qui étions accoutumés à faire le mal, en nous, maintenant, nous sommes des gens, je ne dis pas programmés, mais poussés par une puissance à faire le bien, de sorte que la malédiction et la condamnation éternelle, la mort éternelle, nous avons la vie, la bénédiction en Jésus, de sorte, dans les ténèbres que nous étions, nous sommes appelés lumière et enfants de lumière, dans la nuit, qui est l'obscurité, qui est l'obscurantisme, nous passons au jour dans cette voie du mensonge dans laquelle nous étions, nous exprimons et nous réalisons la vérité parce que Dieu est vérité. Dans la haine qui nous animait en tant que mal, Dieu imprime par le Saint-Esprit son amour dans nos cœurs et par la même dans la souillure dans laquelle nous étions à cause du péché. Il nous élève à un niveau de sainteté, non pas par rapport à lui, mais par rapport à nous-mêmes. Et je veux prendre juste une seule caractéristique. Parce que toutes les caractéristiques que vous voyez devant vous peuvent être l'objet d'une prédication. Mais je vais extraire une caractéristique. Lumière. 1 Jean au chapitre 2e. Ou voire même chapitre 1er. 1 Jean, épître de Jean, juste avant l'Apocalypse. Au chapitre 1er et au verset 5 et 6. J'ai eu l'occasion par le passé de soumettre devant vous ce verset. Mais nous allons le revoir et en prenant pour nous ce que Dieu attend. Et tout de suite au verset 5, il y a un mot qui apparaît, la nouvelle. Chers frères et sœurs, avant que la nouvelle soit le retour de Jésus, la nouvelle est déjà Jésus dans nos vies. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Dieu, de Jésus, et que nous vous annonçons comme quoi nous avons appris, nous avons fait l'apprentissage lorsque nous recevons Jésus. Mais en même temps, repose sur nous, annoncer cette nouvelle que nous avons apprise, que nous vous annonçons quoi, quelle est cette nouvelle. Voilà la nouvelle. c'est que Dieu est lumière. Et en disant ce qu'il est, l'apôtre Jean nous dit aussi ce qu'il n'est pas. Il n'y a point en lui de ténèbres. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Mais il le dira après, vous êtes la lumière du monde en s'adressant à ses disciples. Mais comment se fait-il que nous étions ténèbres et que Jésus est lumière et que par rapport à lui et en lui et en vertu de lui et sur la base de lui, nous devenons lumière? Est-ce que la lumière que nous sommes est le produit de notre propre émanation? Non, nous en sommes que le reflet. Et si nous ôtons Jésus dans nos vies, nous devenons ténèbres. Nous sommes lumière qu'en Jésus et à travers Jésus. Ôtez Jésus de nos vies, nous revenons à ce que nous étions ténèbres. D'où l'appel biblique, Christ doit vivre en nous. Et remarquez, chers frères, c'est ce que repense la conscience et le cœur des croyants que je suis et que vous êtes et que nous sommes. En disant être ambassadeur de Dieu, je suis la lumière, vous êtes la lumière du monde. Éphésiens, 1 Thessaloniciens plutôt. Au chapitre 5e, nous allons considérer, si vous le voulez bien, verset 4. Et 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5e, versets 4 et 5. Mais vous, frères, rajoutez sœurs, rajoutez jeunes gens, rajoutez jeunes filles, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas. Il n'est pas dit que vous ne serez pas. Vous n'êtes pas. C'est une vérité. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour, la nouvelle du retour de Jésus, le jour de Christ, vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Éphésiens, toujours au chapitre 5e, dans le même ordre d'idées. Verset 8e. Éphésiens au chapitre 5, verset 8e. Toujours Paul, après avoir parlé dans Thessaloniciens, nous dit dans Éphésiens, « Autrefois, dans le passé, quand nous n'avions pas fait alliance avec Christ, autrefois, vous étiez ténèbres. » Et remarquez bien qu'il ne dit pas « vous étiez dans les ténèbres », mais « vous étiez ténèbres ». Il nous personnifie autrefois comme ténèbres. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, il y a l'autre fois ce que vous étiez ténèbres. Et maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment que nous sommes dans l'autre fois, sans Christ? Et maintenant, nous sommes en Christ. Voilà ce que nous sommes. Et dans le maintenant de nos vies, ne doit pas se trouver de l'autre fois de nos vies. Mais maintenant, vous êtes lumière. Ma propre émanation? Non. Dans le Seigneur. Alors, si vous êtes lumière, le verbe marcher, voie, route, chemin. Marcher comme des enfants de lumière. La question que je me pose à moi en préparant cette méditation pour nous et que je pose à vous et que nous allons répondre d'une manière personnelle et individuelle dans notre esprit par rapport à ces deux voies et en tant qu'enfants de Dieu, où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous serons ce que nous serons seulement en Jésus. Nous serons en Jésus que sur la base de la parole de Jésus. Nous serons sur la base de la parole de Jésus que si l'Esprit de Jésus nous révèle sa parole, dans le but ultime de réaliser dans nos vies la vie de Jésus. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas devenus croyants juste pour faire nos petites affaires dans un cadre bien précis sur cette terre. Mais si nous sommes devenus enfants de Dieu, et comme tout enfant veut vivre auprès de son père, et comme tout père veut que ses enfants soient auprès de lui, pour l'instant nous sommes séparés physiquement. Dieu est au ciel et nous sommes sur terre, mais nous devons être liés avec lui par l'esprit. Il n'y a que ça qui fait, permettez-moi ce langage moderne, la connexion entre Dieu et nous, ça se passe essentiellement au niveau de l'esprit. Et le livre de Romains que nous sommes en train d'étudier montre bien que lorsque le message de l'évangile a été prêché à partir des apôtres dans le premier siècle, nous sommes dans l'Empire romain où existent deux religions fondamentales, qu'elles soient polythéistes ou monothéistes. Polythéistes, les païens. Monothéisme, le judaïsme. Mais ce qui fait le dénominateur commun de ces deux religions, c'est que dans l'approche de Dieu et dans ce qu'ils conçoivent de la communion et la relation avec Dieu, cela repose fondamentalement et essentiellement sur la pratique, sur des œuvres. Je fais des choses, je pratique des choses pour qu'en retour, mon Dieu me soit favorable et je rentre dans sa favorabilité. C'est à partir des œuvres. Les païens, et nous pouvons le constater, la relation avec leur Dieu repose essentiellement sur des pratiques. Et vous pouvez le constater lorsque vous considérez les religions en dehors du christianisme, que ce soit l'hindouisme, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, et que sais-je encore faire pour que Dieu en retour accorde sa faveur. Mais dans le domaine du judaïsme, ils sont tombés aussi dans cette extravagance. Faire pour que Dieu, en retour, accorde sa faveur. Mais quand Christ est prêché, il abolit ses principes de relation. Maintenant, il ne s'agit pas de faire pour entrer dans la bonté de Dieu. Parce que le Dieu païen est le Dieu juif. On le cantonne dans un lieu, on le focalise dans un lieu, on le localise dans un lieu et il ne bouge pas. Et entrant dans ce lieu, on vient faire toute espèce de pratique et d'œuvre vers ce Dieu. Pour être en contact avec Dieu, il faut entrer dans le lieu de Dieu, ce qu'on appelle temple, église, synagogue, et tout ce que vous voulez. Mosquée, et tout ce que vous voulez. Pagode. Mais quand l'évangile de Christ est prêché, c'est le contraire. Nous entrons dans une relation avec Dieu, non pas en capacité de ce que nous pouvons faire, ou que nous croyons faire, mais nous entrons dans une relation, une communion avec Dieu, essentiellement non pas sur des actes, mais reposant maintenant sur l'affection du cœur, ce qu'on appelle la foi. Et Dieu ne se trouve pas dans un lieu. Et le temple de Dieu n'est pas un lieu où on désole Dieu. Mais nous devenons le temple de Dieu. C'est que ce n'est pas la même chose. Quelle maison pourriez-vous me construire? Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. S'il n'est pas fait de main d'homme, en devenant enfant de Dieu, ce temple que je suis a été fait par Dieu. Dieu, il n'est plus dans un espace, mur, pierre, vitre, bois et tout ce que vous voulez. Mais le chrétien, le croyant, devient le temple. Et Dieu habite dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme, mais dont il a créé. En Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Et c'est dans ce temple-là qu'il veut habiter. Et c'est dans ce temple-là qu'il demande que soient manifestées et réalisées ses propres caractéristiques. Vie, bien, bénédiction, lumière, jour, vérité, amour et sainteté. Mes chers frères et sœurs, pour que cela soit possible et rendu possible, ces deux voies Parce que l'homme de par lui-même ne peut pas sortir des ténèbres et aller à la lumière. Il faut que Dieu, dans toute sa sagesse infinie, au-delà même de ce que nous pouvons penser, Dieu va faire en sorte de ce que nous appelons communément un plan. Mais c'est plus qu'un plan. Dieu n'est pas quelqu'un qui est devant sur une table en train de faire un plan. C'est un dessein. C'est une œuvre. Parce qu'un plan reste un plan s'il n'est pas mis en œuvre. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne fera que du l'encre sur du papier. Mais Dieu, dans son ce que nous appelons plan, ce n'est pas de l'encre sur du papier. C'est une œuvre. C'est une œuvre pour que passer d'une voie à une autre voie soit accessible à tous, soit possible à tous, soit réalisé en tous. Et ce qui était possible a été possible par Jésus. Et vous savez que Satan, dans sa contrefaçon, parce que les deux voies qui s'opposent, qui se séparent, il y a la voie véritable de Dieu et il y a la voie de Satan. La voie de Satan que nous avons vue dès le départ, c'est de la contrefaçon de la voie véritable. Et vous savez qu'en contrefaçon, Satan est un expert, c'est un contrefacteur puissant. Et si nous ne sommes pas des gens avertis et instruits et versés dans les Écritures, le franchissement d'une voie à l'autre se fait sans que nous nous rendions compte. Jésus est venu personnifier cette voie, la postérité de la femme. Et en disant la postérité de la femme dans Genèse, l'Éternel est en train de l'annoncer, que Dieu se fera homme pour sauver les hommes. Et que dans l'autre voie, nous avons un homme qui se fait Dieu pour perdre les hommes. Et j'en prends comme preuve le texte de 2 Thessaloniciens au chapitre 2e. Et vous avez dans la description le Christ de Dieu. Satan, dans sa contrefaçon, nous oppose l'antichrist de Satan. L'antichrist, c'est celui qui est contre. L'antichrist, c'est celui qui fait une parodie avant. Et Jésus, dans ce principe de la voie divine, est symbolisé comme un agneau doux, immolé. Et Satan, dans sa contrefaçon, nous propose aussi un animal, la bête effrayante. Et les deux, dans les deux voies, reçoivent la puissance de celui qui les envoie. La bête reçoit la puissance de celui par lequel il est animé, de Satan, le trône, la puissance et l'autorité. Et Jésus lui-même reçoit de son Père les mêmes caractéristiques, le trône, la puissance et l'autorité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes devant ce qui est véritable et nous sommes devant ce qui est contrefaçon. Je vous pose la question, chers frères et sœurs, je mets devant vous, et quand je le parle, je sais de quoi je parle. Je mets devant vous aujourd'hui une chemise d'une certaine marque et une autre chemise contrefaite, mais épousant cette marque. Feriez-vous la différence? Parce que le contrefacteur d'aujourd'hui, ils sont devenus tellement ingénieux, à tel point qu'un œil non averti ne peut faire la différence. Et si on ne fait pas la différence? Et quand je dis je sais de quoi je parle, j'ai fait 30 ans dans l'administration des douanes. Et au contact de la douane. Et je peux vous dire que quand vous recevez un colis où il y a le produit d'une certaine marque célèbre et mondialement connue, et de l'autre, un autre carton où le produit est fabriqué au sud-est asiatique et que vous mettez les deux produits à côté, chers frères et sœurs, même un douanier averti ne peut pas faire la différence. Il a fallu que l'administration des douanes forme une élite d'experts pour que la contrefaçon soit révélée. La contrefaçon révélée révèle aussi l'authentique et les véritables. Former une élite d'experts. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour corriger, pour convaincre, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit accompli, expert. est propre à toute bonne œuvre, faire la séparation des deux voies. 2 Thessaloniciens au chapitre 2e, au verset 3. Il faut que l'apostasie, deuxième partie du verset 3, 2 Thessaloniciens chapitre 2, je mets l'accent sur cette contrefaçon de Satan par l'antichrist, l'antéchrist, la bête. Il faut que l'apostasie avant le retour du Christ soit arrivée. Autrement dit, il faut que la contrefaçon soit révélée et manifestée sous la puissance de Satan. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître visible l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Retenez bien ici, trois choses qui révèlent son identité. Trois choses qui révèlent son identité. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Trois autres choses qui montrent son œuvre. S'élève, un, au-dessus de ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. S'assoit dans le temple de Dieu, trois, et se proclamant lui-même Dieu, et se proclamant lui-même Dieu, trois. Trois pour son identité. Trois pour son œuvre. Additionnez les deux, nous avons un élément du six. Est-ce que Dieu nous laisse au dépourvu? Non. Et cette contrefaçon ira jusqu'à la fin, puisque nous sommes maintenant dans Apocalypse, chapitre 14. Et je terminerai avec ce verset, ce qu'on appelle le triple message, dont on entend parler souvent. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans la nature de ces messages, mais extraire ce principe de la contrefaçon de Satan. Je vis un autre ange, Apocalypse 14, verset 6, qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. 4, l'universalité du message. Et il est éternel parce que l'évangile est Jésus. Et parce que Jésus est éternel, que l'évangile est éternel. Et que dit cet ange qui vole par le milieu du ciel? Craignez Dieu, un, donnez-lui gloire, deux, pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue, et adorez. Craignez Dieu, donnez gloire à Dieu, et adorez Dieu. Pourquoi le premier ange crie? Et de rajouter d'une voix forte. Chers frères et sœurs, la question, est-ce que l'Église crie? Et si elle crie, crie-t-elle d'une voix forte? Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'ange vole par le milieu du ciel? Sur la terre, nous sommes au verset, au chapitre 13 et au verset 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adoraient à la bête. Adorez Dieu! Et ils adoraient à la bête. Et ils adoraient à le dragon. Et le dragon avait donné autorité à la bête. Et tous ensemble, ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Mais ce combat, nous l'avons vu dans Genèse. Dieu cite le camp de victorieux. Celle-ci t'écrasera la tête. À la fin d'Apocalypse, nous retrouvons qui peut combattre contre la bête. Mais qui est semblable à la bête? N'est-ce pas une question que Jésus, que Dieu se pose, l'Éternel se pose à lui-même dans Jérémie en disant, qui est semblable à moi? Et voilà, nous trouvons la bête. Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Mais elle est déjà vaincue, Satan. Il est déjà vaincu, Satan. Quand bien même la bête est un prodige, le fruit de ses entrailles. Et c'est pour ça l'ange dit d'une voix forte, la terre adore la bête, la terre est dans l'admiration de la bête. Si la voix de l'Église ne se fait pas forte, comment les gens qui sont en train d'adorer la bête et dans l'admiration entendront-ils le message de Dieu si l'Église ne crie pas d'une voix forte? Mais pour que l'Église crie d'une voix forte, nous ne devons pas oublier ce que nous avons vu au départ, que nous sommes des enfants de lumière pour refléter la lumière. Autrement dit, la prédication, avant que ça soit parole, il faut que ça soit un vécu, une vie. Deuxième ange, verset 8. elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et remarquez bien dans la contrefaçon, il y a la chute de Babylone, elle est tombée, parce que inexorablement sa chute est annoncée et déterminée. C'est pour ça que sa chute n'est pas annoncée dans le futur, mais c'est présentement. La chute de Babylone, et remarquez bien dans la voix de Dieu, si la bête et Satan a une ville, Dieu a la sienne, la Jérusalem sainte et céleste. Elle est tombée, Babylone la grande. Où sommes-nous, chers frères et sœurs, en partance pour la nouvelle Jérusalem, ou en sommes-nous en train de prendre racine dans Babylone? Parce que lorsque Babylone tombera, ceux qui sont dans Babylone tomberont aussi. Quand bien même vous êtes adventiste du septième jour. Adore la bête, la terre. Le message, adore Dieu. L'annonce du deuxième ange, destruction finale de Babylone. Dieu met en évidence l'installation prochaine de la nouvelle Jérusalem. Troisième ange, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sur sa main droite ou son front une marque, nous avons dans le même temps, dans cette voie, l'autre, la marque de Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 21. Et celui, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21, et celui qui nous a affermis en vous, en Christ, celui c'est Dieu le Père, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Et Paul dans Éphésiens dira, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et Dieu dira aux anges, ne faites pas de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du front, le sceau du front de serviteurs de l'Éternel. Les deux oppositions, chers frères et sœurs, la marque de Dieu et la marque de la bête. Et vous savez qu'une marque a toujours vos principes, c'est un signe d'appartenance. Lorsqu'on a la marque de Satan, c'est la preuve que nous lui appartenons. Et lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, c'est la preuve que nous lui appartenons. Maintenant, dans le message, il n'y a pas seulement trois anges, mais il y a un quatrième pour nous. En fonction de ce que nous avons dit, en fonction de ce que la parole de Dieu nous a dit, maintenant, l'ultime message pour le peuple de Dieu, pour les croyants, si Babylone est annoncée détruite, alors mon peuple, vous et moi, sortez de Babylone, Apocalypse 18, verset 4. Pourquoi il faut sortir? Première raison, pour ne pas subir les fléaux de Babylone. 1. Deuxième raison, pour ne pas participer à ses péchés. Mais quand il est dit sortir, ce n'est pas prendre tout son bagage, ses mallettes et ses valises, d'aller je ne sais où à la montagne, mais de sortir par l'esprit et l'âme. 2 Corinthiens, je terminerai avec cela. 2 Corinthiens au chapitre 7e, 6e déjà, et au verset 14, 16 et 17. 2 Corinthiens au chapitre 6e. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Comme nous sommes le temple de Dieu, voici ce que Dieu dit. Et Paul reprend à peu près les mêmes mots d'Apocalypse de Jean. Sortez du milieu d'eux. Et comment sortir? Séparez-vous, non pas physiquement, mais comment? Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez, un, séparez, deux, ne touchez pas ce qui est impur. Chers frères et sœurs, ne touchez pas seulement la viande de porc. Mais ce qui est impur, ce n'est pas seulement une consommation d'aliments, c'est le péché. Ne touchez pas ce qui est. Et la promesse, si vous sortez, si vous vous séparez, et si vous ne touchez pas, voilà la promesse de Dieu. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est une promesse et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et le chapitre 1, toujours dans cette même lignée du chapitre 6, le chapitre 7, ayant donc de telles promesses, quoi? Je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, ayant donc de telles promesses que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà comment il nous faut sortir. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, pas seulement, et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, sommes-nous en train d'achever notre sanctification? Pour répondre à cette question, pour achever quelque chose, il faut déjà l'avoir commencé. Et nous ne sommes pas au début, parce que souvent, chers frères et sœurs, dans nos écarts de parole, lorsque nous disons que la vie, l'œuvre de la sanctification est toute une vie, mais vous êtes en train aussi de dire, est-ce que vous savez quand votre vie se terminera? Si j'ai 40 ans de l'Église, cette sanctification, elle est au commencement, au milieu ou à la fin? En ce qui nous concerne, lorsque nous lisons les Écritures là, achevez votre sanctification, autrement dit, à la fin. Quand Dieu, après avoir créé, acheva son œuvre, et qu'il prend le septième jour et qu'il le sanctifie, l'a-t-il sanctifié à 70%? L'a-t-il sanctifié à 90%? L'a-t-il sanctifié à 99,99%? Il l'a sanctifié, complète, entière, totale, parfaite. Achevons notre sanctification entière, totale, parfaite en Jésus-Christ. Amen.
Merci à notre frère pour le message qu'il nous a délivré. Que cela nous fasse du bien, nous fasse réfléchir. Je vous invite maintenant à vous lever et à contempler Dieu sur son trône, à vivre avec Jésus dans le ciel. Et j'espère pour nous tous à jeter nos couronnes à ses pieds. Et ce sera là un bonheur éternel. Cantique 394. Contemplez mon Dieu.